Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'économie vient marcher sur les plates-bandes de l'écologie.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
La nature ne s'est pas montrée chiche. Tous les services qu'elle nous a rendus jusqu'ici ont été gratuits. Les fleurs ont été pollinisées, les eaux naturellement épurées et le carbone absorbé par les forêts sans qu'il nous en coûte le moindre centime. En revanche, si ces services venaient à disparaître et l'on en prend le chemin, la facture serait salée. Selon le WWF, le coût de l'érosion de la biodiversité s'élèverait à 500 milliards de dollars par an si rien n'était fait pour l'enrayer. La disparition des écosystèmes se poursuit et l'humanité risque d'en payer le prix. Il est 14h passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons évaluer le prix de la biodiversité en compagnie de Guillaume Saint-Denis, enseignant à AgroParisTech et auteur de cet ouvrage « Le climat qui cache la forêt », comment la question du changement climatique occulte les problèmes d'environnement, paru aux éditions Rue de l'Échiquier. En compagnie également de Catherine Aubertin, économiste de l'environnement, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. À 14h50, Xavier Martinet nous rejoindra autour de la table pour nous donner des nouvelles de l'écho. Guillaume Saint-Denis et Catherine Aubertin, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on commence par une lecture en direct par Aliette Ovine de l'équipe d'Entendez-vous l'écho.
Les rois avaient des richesses en telle abondance que jamais sans doute avant eux, nulle maison royale n'en posséda de semblables et que nul n'en possédera aisément de telles à l'avenir. L'île leur fournissait tous les métaux durs ou malléables que l'on peut extraire des mines. En premier lieu, celui dont nous ne connaissons plus que le nom, le cuivre pur. C'était le plus précieux, après l'or, des métaux qui existaient en ce temps-là. L'île fournissait avec prodigalité tout ce que la forêt peut donner de matériaux propres au travail des charpentiers. De même, elle nourrissait en suffisance tous les animaux domestiques ou sauvages. Elle donnait encore et les fruits cultivés et les graines qui ont été faites pour nous nourrir et dont nous tirons les farines. Ainsi, recueillant sur leur sol toutes ces richesses, les habitants de l'Atlantide construirent les temples, les palais des rois, les ports.
Ainsi Platon dépeint-il le royaume de l'Atlantide dans son dialogue avec Critias. Guillaume Saint-Denis, que vous inspire ce texte qui loue ici les services rendus à l'homme par la nature ?
Ah, il inspire beaucoup de choses. D'abord, le fait que ce sujet n'est pas nouveau, puisque on a d'autres penseurs de l'Antiquité qui déjà attiraient l'attention là-dessus, pas avec les termes employés aujourd'hui, bien sûr, et qui, pour certains d'entre eux, se désolaient de la disparition des forêts déjà, notamment dans la Grèce antique. Et on a, si vous relisez la politique d'Aristote, vous avez toute une partie qui aujourd'hui s'appellerait le cadre de vie et l'environnement. Il explique où est-ce qu'il faut construire les villes pour qu'elles soient bien aérées, pour qu'on n'ait pas trop chaud, pour que elle ne soit pas victime de l'élévation du niveau de la mer, etc. etc. Donc c'est une préoccupation, et c'est dans le livre qui s'appelle « La politique ». Donc on voit bien que c'est un outil, un objet politique en quelque sorte, depuis longtemps.
La déploration de la dégradation de la biodiversité, c'est une question très ancienne, Catherine Aubertin.
La dégradation de la biodiversité, oui, c'est une question ancienne. Bien que le terme biodiversité soit une expression nouvelle, d'ailleurs c'est une drôle de construction, hein. Il y a une racine grecque, une racine latine, c'est déjà, on voit bien que c'est quelque chose qui a été nouvellement créé. La biodiversité a été créée, le terme hein, a été créé déjà comme un objet de lutte, c'est-à-dire ce sont surtout les sciences de la nature qui ont alerté donc sur la disparition de cette biodiversité à la veille de la grande convention de Rio de 1992 où a été signée la convention sur la diversité biologique par exemple.
C'est à partir de ce moment-là que ce terme s'impose dans le débat.
Le terme s'impose dans le débat, donc le terme de lutte, hein, donc un terme pour lutter, mais déjà, la convention s'appelle encore la convention sur la diversité biologique. Le terme biodiversité qui est plus facile à utiliser que diversité génétique va se divulguer après.
Et comment est créé ce terme alors de biodiversité ?
C'est une contraction du terme de diversité biologique, qui est une façon d'appréhender donc les différents éléments de la nature. La convention donc sur la diversité biologique va déterminer plusieurs niveaux d'appréhension, donc le niveau génétique, le niveau spécifique, c'est-à-dire celui des espèces, et celui des écosystèmes. Et puis petit à petit va s'ajouter ce qu'on peut appeler les socio-écosystèmes, c'est-à-dire l'intervention de l'homme. Et enfin, on va beaucoup insister sur les flux qui relient tous ces niveaux d'organisation.
C'est important de savoir de quoi l'on parle, En effet, Guillaume Saint-Denis, quand on parle de biodiversité, puisque après, il va nous falloir faire le bilan, effectivement, de cette disparition de la biodiversité, de cette dégradation des écosystèmes.
Oui, en effet, quelquefois, les gens ne parviennent pas à comprendre pourquoi c'est important. Et je reviens sur ce qui a été dit. En fait, la biodiversité, c'est trois choses. La biodiversité des écosystèmes. Le désert du Sahara n'est pas le même écosystème que la Camargue ou le Marais Poitevin, on peut le comprendre, et donc les espèces qui y vivent ne sont pas les mêmes et n'ont pas les mêmes relations entre elles et avec leur milieu. Ensuite, la biodiversité interspécifique, c'est-à-dire que par exemple un merle noir n'est pas la même chose qu'un pigeon ramier. Et puis la biodiversité intraspécifique, c'est-à-dire que tous les quatre qui sommes là dans ce studio, nous appartenons à la même espèce et pourtant nous sommes différents, nous n'avons pas exactement le même patrimoine génétique. Et toute cette diversité-là fait que nous pouvons en tirer un grand potentiel pour la recherche, pour l'innovation, pour la lutte contre les maladies. Et c'est quand on parle d'érosion de la biodiversité, c'est l'érosion de ces chances d'amélioration de l'humanité dans le futur dont on parle.
Or le constat aujourd'hui qui est dressé par l'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Ce constat est particulièrement alarmant. On parle d'une sixième crise d'extinction des espèces, avec l'idée que les trois quarts de l'environnement terrestre et environ 66% du milieu marin auraient été significativement modifiés par l'action humaine. Catherine Aubertin.
Oui, on l'aperçoit. Enfin, les études se multiplient. Les dernières études, par exemple, au Musée national d'histoire naturelle à propos des insectes ont montré une chute extrêmement importante du nombre d'insectes. Je ne sais plus, mais enfin, la moitié des insectes sont en train de disparaître. Le même constat pour les oiseaux ordinaires. C'est-à-dire que ce ne sont plus simplement les espèces emblématiques comme le panda ou l'ours polaire ou les baleines qui disparaissent, mais c'est bien tout ce qui fait ce qui nous entoure. Et c'est pour ça que j'aimais bien la définition de la biodiversité faite par Monsieur Barbeau, qui était de dire que c'était le tissu du vivant. C'est vraiment ce qui nous permet de vivre sur notre planète en particulier et avec nos concitoyens.
La nouveauté de la menace aujourd'hui, Guillaume Saint-Denis, c'est la responsabilité de l'activité humaine dans cette sixième extinction de masse des espèces.
Pas seulement. Je pense qu'en fait, il est vrai de dire qu'il y a déjà eu des crises d'extinction de la biodiversité et que une grande partie de la biodiversité s'est éteinte à plusieurs reprises. Mais c'était en général sur des périodes de temps assez longues et avec une biodiversité qui s'est recréée. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des espèces qui disparaissent et d'autres qui apparaissent est en soi un phénomène normal. Ce qui est inquiétant dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la vitesse de disparition de ces espèces et la vitesse des changements comme le changement climatique et d'autres qui font qu'un certain nombre d'espèces vont pouvoir s'adapter mais un certain nombre d'espèces ne vont pas pouvoir s'adapter parce qu'elles sont moins mobiles que d'autres, parce qu'elles sont moins adaptables, etc. Et le fait qu'en effet, c'est la première extinction ou en tout cas érosion massive dont l'homme soit véritablement responsable.
Or les écosystèmes nous rendent des services dont nous n'avons parfois même pas conscience. C'est ce que nous explique Pavan Sukhdev, il est économiste et président du WWF.
Une image qui vous est familière, la forêt tropicale amazonienne. C'est une énorme réserve de carbone, une énorme réserve de biodiversité. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est également une usine à pluie. Parce que les alizés du Nord-Est, quand ils passent par l'état d'Amazonas, recueillent efficacement la vapeur d'eau. Quelque chose comme 20 milliards de tonnes par jour de vapeur d'eau sont absorbées par les alizés du Nord-Est pour finalement tomber sous forme de pluie le long du bassin de la Plata. Le cycle de la pluie, l'usine à pluie, fournit efficacement une économie agricole pour une valeur de 240 milliards de dollars en Amérique latine. Mais une question se pose. Combien paye l'Uruguay, le Paraguay, l'Argentine et bien sûr l'État de Mato Grosso au Brésil pour sa contribution vitale à l'économie, à l'État d'Amazonas qui produit cette pluie? Et la réponse est que dalle. Zéro. Voilà l'invisibilité économique de la nature. Et si nous ne nous occupons pas de cette invisibilité, nous obtiendrons les résultats que nous voyons, c'est-à-dire une dégradation et une perte progressive de ces précieux biens naturels.
Guillaume Saint-Denis, que peut-on dire de cette invisibilité économique de la nature ?
D'abord, je n'irai peut-être pas aussi loin parce qu'elle n'est pas complètement invisible quand même. Il y a des éléments, des services, des biens qu'on tire de la nature qui sont commercialisés. Quand on exploite une forêt, alors on peut l'exploiter bien ou mal, il y a toute une nuance là-dedans, mais on vend le bois. Donc là, il y a des espèces sonnantes et trébuchantes, c'est marchand. La pêche aussi, alors là aussi, elle peut être mal ou bien pratiquée, mais les produits se vendent. La pharmacie, aujourd'hui, on a à peu près 40% des médicaments vendus dans le monde qui proviennent directement ou indirectement de la biodiversité. Et donc, c'est un chiffre d'affaires considérable.
C'est plus facile quand il s'agit d'une ressource identifiable, ça l'est moins quand il s'agit de voir les avantages que nous procure la diversité des espèces dont vous parliez, par exemple.
Alors, non, je dirais pas ça comme ça. Je dirais qu'en fait, un des problèmes de la biodiversité, c'est que pour l'instant, nous n'avons identifié qu'une minorité des espèces existantes sur Terre. Et que donc, ne serait-ce que de ce fait-là, c'est presque impossible d'évaluer, on peut faire des estimations, mais d'évaluer la richesse économique de la biodiversité, puisque la plus grande partie, on ne la connaît pas. Nous parlons beaucoup du coronavirus en ce moment. Dans les espèces qui ont disparu depuis un an ou qui vont disparaître dans cette année, il est tout à fait possible qu'il y ait une espèce dans laquelle il y a eu une antidote du coronavirus. Si elle disparaît, nous ne le saurons jamais.
Et ça, c'est effectivement un aspect important pour l'industrie pharmaceutique qui s'appuie beaucoup sur les ressources génétiques, Catherine Aubertin.
Oui, là moi je prendrai quelques distances parce que j'accompagne beaucoup la Convention sur la diversité biologique et le troisième objectif de la Convention qui est le partage juste et équitable des avantages tirés de l'exploitation des ressources génétiques a vraiment a reposé sur une promesse des biotechnologies et de ces molécules inconnues qui pourraient nous sauver au fond de forêts tropicales. Et c'est vraiment ça a vraiment été une construction, je trouve, de marchandiser justement la forêt parce qu'il y avait des molécules qui étaient des molécules d'intérêt pour l'industrie, a été vraiment un facteur de malentendu.
On voit effectivement le danger qu'il peut y avoir à marchandiser cette biodiversité, Guillaume Saint-Denis. Ça peut être un moyen de la protéger ou au contraire de l'exploiter.
Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un cadre. Mais si vous avez aujourd'hui des espèces, par exemple, si je prends l'if du Pacifique, on en tire le taxol, qui est une des molécules qui est utilisée pour le cancer du sein. Donc non seulement, alors ensuite, comment est-ce qu'on valorise le nombre d'années de vie gagnées ou de bien-être gagné, mais il y a en tout cas le chiffre d'affaires du taxol qui existe et qui montre que, en dehors même de l'aspect humanitaire, et ça crée des emplois, etc., la pervenche de Madagascar, même chose, enfin, vous avez plusieurs exemples, si vous voulez, aujourd'hui, de plantes ou de substances venues de la biodiversité qui sont utilisées et qui sont sur le marché. Bon, voilà. Alors évidemment, le risque de la marchandisation extrême existe, en même temps, on ne protège que ce qui a de la valeur. Et donc, quand on voit qu'une espèce a une valeur plus importante qu'une autre, on a tendance à protéger davantage celle-là, ce qui d'ailleurs pose un autre problème pour celles qui en ont moins.
D'où la nécessité ou la volonté, en tout cas, de mettre en valeur le coût économique de la dégradation de la biodiversité. Et Robert Costenza, l'économiste, a joué un rôle pionnier pour justement installer l'idée de service rendu par les écosystèmes. On l'écoute.
The idea of valuing these services in a range of different ways.
D'une manière ou d'une autre, l'idée est de valoriser ces services. Mais comment évaluer leur contribution au bien-être humain et au bien-être durable? Il y a toute une gamme d'utilités de ces services. Les écosystèmes ne sont pas seulement une belle image, ils structurent en réalité presque tout ce que nous faisons dans la vie. Je pense que l'ajustement du revenu national et du bien-être est un effort majeur. Comment réduire l'importance démesurée accordée à la croissance du PIB, dont on fait notre premier objectif politique? Et comment nous assurer que la valeur des ressources naturelles, le capital social et d'autres éléments sont intégrés à nos objectifs nationaux? Comment nous pouvons récompenser les individus pour l'amélioration et la préservation de ces services? Il y a aussi la comptabilisation du coût total. Comment obtenir des prix corrects? Comment faire en sorte que le marché commence à nous dire la vérité sur le coût total de ce que nous produisons et consommons? Et comment créer de meilleures institutions pour gérer ces services qui sont en grande partie des biens publics, qui ne peuvent être traités sur les marchés privés?
On voit bien ici, avec Robert Costanza, Guillaume Saint-Denis, tous les problèmes que soulève la volonté de montrer la valeur économique des services rendus par la nature.
Oui, Robert Costanza a suscité la polémique, mais une polémique à mon avis utile et féconde, parce qu'il a publié il y a quelques années une grande étude qui s'appelait The Value of Ecosystem Services, qui chiffrait la valeur totale des écosystèmes mondiaux à 33 000 milliards de dollars. Donc cette étude a été très attaquée par des économistes pour des raisons techniques sur lesquelles je ne m'appesantirai pas, mais l'une d'entre elles était que c'était pas possible parce que c'était supérieur à la valeur du produit intérieur brut mondial de l'époque. Mais c'est pas forcément un argument, parce que ça, au contraire, ça peut prouver à quel point nos modes de comptabilisation économique sont faussés, puisqu'en fait nous avons des facteurs de production gratuits qui à eux seuls dépassent la valeur du PIB, qui est en gros ce qui est fabriqué par l'humanité dans une année entière.
Mais le risque, effectivement, c'est de tomber dans une bataille de chiffres avec la complexité qu'il y a à évaluer ces services rendus à la nature sur le plan économique.
Mais ces services sont gratuits jusqu'à présent, sont gratuits, et donc on n'en tient pas compte dans les coûts de production, puisque la production, les coûts de production, donc le PIB qu'on mesure, ne tient pas compte de l'utilisation des biens et services de l'environnement. Et effectivement, le fait d'essayer de les évaluer, ou du moins de se rendre compte des fonctions que les écosystèmes disposent en appui. Alors évidemment, on les considère en appui au bien-être humain. Donc on fait souvent cette approche et critiquée pour son anthropomorphie, enfin anthropocentriste.
Alors on va revenir effectivement sur cette question, mais d'abord on a vu que nous n'avions pas forcément conscience de tous les services rendus par la nature. Est-ce que c'est à cause de cela, Guillaume Saint-Denis, qu'aujourd'hui la biodiversité est souvent éclipsée par la théorie, par la thématique, pardon, du changement climatique, étrange lapsus. Guillaume Saint-Denis, c'est d'ailleurs l'objet de votre livre.
Alors, oui et non. Les préoccupations pour la biodiversité, qu'on appelait en fait avant l'invention du terme dont on a parlé tout à l'heure, protection de la nature ou conservation de la nature selon les pays, sont en fait antérieures à la préoccupation pour le changement climatique. Et elles ont été, puisque ça date déjà au 19e siècle, on en a parlé tout à l'heure dans l'Antiquité, mais c'est revenu à partir du 19e siècle beaucoup, et au début du 20e. Les grandes associations sur ce sujet se sont créées à ce moment-là. Et puis ça a été en effet concurrencé, puis éclipsé par le changement climatique, essentiellement à partir des années 90, pour différentes raisons. L'une des raisons est que, d'abord, il y a le côté peur qu'on ressent devant un événement non maîtrisé, etc. Et puis, parce qu'il y a une plus grande simplicité dans le calcul des coûts économiques, dans la mesure où on a un certain nombre de gaz à effet de serre, qu'on peut tous comparer au CO2, qui est le principal, même s'il y aurait beaucoup de réserves à faire, parce que les méthodes de comparaison selon la durée de rémanence des gaz, etc., est contestable. Mais donc on arrive à un coût, si vous voulez, qui est plus facile à exprimer. Et ensuite, on a une tonne de CO2 est égale à une tonne de CO2, qu'elle soit émise en Bolivie ou en France, puisque c'est une pollution globale. Alors que une espèce endémique, comme on dit, à un pays n'est pas la même qu'une espèce endémique à un autre pays, et donc aura une valeur différente dans un contexte différent.
Guillaume, Catherine Aubertin.
Oui, on est confronté à la définition de la biodiversité, à l'absence de métrique. Qu'est-ce que c'est qu'une unité de biodiversité? Alors on essaye de trouver des astuces pour en rendre compte. Alors soit on prend un hectare, soit on prend de forêts, soit on va prendre l'existence d'animaux spécifiques. Donc à chaque fois, la biodiversité va être définie pour qu'on puisse l'intégrer dans les calculs. Mais on s'aperçoit qu'à chaque fois, c'est compliqué. L'image de la biodiversité comme une collection d'espèces, maintenant, cette image semble moins importante que cette approche en termes de services écosystémiques.
Et c'est ce qui explique qu'il n'y ait pas d'équivalent de l'accord de Paris pour la biodiversité aujourd'hui, alors même que les sommets internationaux sur le sujet se multiplient. On l'a vu à Rome récemment, ce sera en Chine à la fin de l'année.
Si, il y a quand même... Il y a a des accords, il y a des objectifs. Les pays se mettent d'accord sur des objectifs. Par exemple, il y a eu les objectifs d'Aichi, qui étaient des objectifs chiffrés qui devaient tous les pays s'engager à soit augmenter la part des aires protégées, soit arrêter les subventions nocives à l'environnement. Il y avait toute une série de mesures. Bon, il s'avère que sur ces 20 objectifs actuellement, sans doute, peut-être un seul a été atteint, c'est bien la superficie d'air protégé. Et encore, on voit bien que c'est un outil qui peut être sujet à caution.
Il y a effectivement beaucoup de propositions qui ont été faites lors de la Convention sur la biodiversité qui a eu lieu à Rome fin février, notamment effectivement les aires protégées, leur extension, mais aussi la réduction des pesticides dans l'agriculture. Mais c'est sur la question du financement que les négociations risquent d'achopper, Guillaume Saint-Denis.
Oui, alors d'abord, je crois qu'il faudrait faire le décompte exact, mais je pense qu'il y a davantage de traités et de conventions internationales sur la biodiversité qu'il y en a sur le changement climatique, parce qu'elles ont commencé il y a très longtemps. Dès 1902, par exemple, il y a eu une convention sur la protection des oiseaux migrateurs. Vous avez une convention sur les zones humides, vous avez une convention sur le trafic des espèces protégées, vous avez des conventions de Berne, convention de Bonn, la convention sur la diversité biologique qui a été signée exactement en même temps à Rio en 92 que la convention climat. On en a moins parlé depuis. L'accord de Nagoya, qui est un accord très important et dont on va traiter le bilan en octobre à la conférence de Kunming dont vous venez de parler. Donc, le corpus juridique est international et national et européen. On oublie que l'Europe a joué un très grand rôle là-dedans et est très important quand même. Alors, le financement, moi, je dirais oui et non parce que tout le monde dit toujours qu'il a des besoins de financement. Donc ça, où que vous alliez, que ce soit l'Opéra de Paris, Radio France, la biodiversité, le changement climatique, tout le monde aura toujours des besoins de financement. Donc, est-ce qu'il faut poser la question en termes de besoins de financement et ces besoins de financement, est-ce qu'ils doivent être assurés par le secteur public ou le secteur privé? Vaste débat sur lequel les pays et à l'intérieur des pays, les différents groupes ne sont pas d'accord. Les pays anglo-saxons, par exemple, sont davantage pour un financement d'ordre privé, en partie, pas forcément uniquement. France est davantage en faveur d'un financement d'ordre public. La Commission européenne, elle, a pris position depuis une dizaine d'années dans beaucoup de papiers en disant qu'il fallait augmenter l'investissement privé dans la biodiversité. Et que pour ça, eh bien, il fallait quand même arriver à avoir des modèles économiques qui permettaient de rendre certaines activités ou certains investissements dans la biodiversité un minimum rentable. Ce qu'ils ne sont pas en France, en partie et grâce à une fiscalité qui taxe énormément les espaces naturels par rapport à d'autres pays.
Effectivement, on a le sentiment que ce sont les pays qui cherchent à retirer un certain bénéfice économique de cette biodiversité. Je pense à la France, mais aussi au Costa Rica, qui a beaucoup investi dans l'écotourisme. Ce sont ces pays-là qui sont à l'avant-garde de la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Catherine Aubertin, là où le Brésil, par exemple, a été particulièrement pointé du doigt au cours de la dernière convention sur la biodiversité.
Oui, il a été pointé du doigt, mais auparavant, et c'était un pays leader pour défendre la biodiversité, qui a eu de très bons résultats dans la lutte contre la déforestation en Amazonie, qui a été pionnier dans l'application, non pas du protocole de Nagoya, puisqu'il n'est pas signataire, mais dans l'esprit du protocole de Nagoya, c'est-à-dire en encadrant l'accès à ces ressources génétiques et en redistribuant les éventuels avantages apportés par cette marchandisation des ressources. Vous voyez, les pays changent aussi. Et ce qui est très compliqué pour se retrouver, c'est qu'il y a un jeu d'alliance. Et très rapidement, on se trouve dans ces conventions, aussi bien pour le climat que pour la biodiversité, dans une situation de pays développés, pays en voie de développement, selon la terminologie onusienne, c'est-à-dire les pays du Sud, les pays du Nord, qui ne voient pas les choses de la même façon.
On va voir qu'effectivement, ce sont sans doute les pays en développement qui ont le plus à perdre de cette disparition de la biodiversité. On en parle dans un instant.
Les premières lueurs, oh, je sombre.
Tout bientôt.
de saison d'Émilie Simon sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Guillaume Saint-Denis et Catherine Aubertin sont toujours avec nous pour parler du prix de la nature. Alors comment donner un prix à la biodiversité? Voilà une question qui soulève un grand nombre d'interrogations, comme nous l'explique la philosophe Virginie Maris.
Quand on est un agriculteur et qu'on produit des abricots, la pollinisation, ça ne fait pas que faire quelque chose dans le monde, ça nous rend un service. Et effectivement, là, pour la communauté, par exemple, ou l'individu qui tire bénéfice de cette fonction, la fonction devient service. Mais ce passage de la notion de fonction à la notion de service n'est pas anodin, parce qu'effectivement, une fonction, c'est là, et ça peut être positif ou négatif du point de vue de nos propres intérêts. Ça peut être intéressant pour certains et inintéressant, voire néfaste pour d'autres. Un service, par contre, c'est une relation qu'on entretient avec le monde naturel, une relation d'intérêt.
Guillaume Saint-Denis, il est important de distinguer les services et les fonctions écologiques. Qu'est-ce que cette distinction nous apprend ?
Alors, le concept qui a été qui était mis en avant par les écologues depuis assez longtemps, et le concept de biens et services écosystémiques produits donc par les écosystèmes, par la nature. Et ce concept a été en quelque sorte officialisé dans un rapport qui s'est appelé le Millennium Ecosystem Assessment en 2005, qui a fait beaucoup de bruit quand il est paru. Et à la suite de ce rapport, il y a eu le rapport Sukhdev. On a entendu tout à l'heure Monsieur Sukhdev,
le président du WWF,
mais qui à l'époque ne l'était pas, qui était banquier,
qui est devenu en 2018.
Indien, voilà. Et donc, en effet, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est de savoir quels sont ces biens et services écosystémiques, les identifier. On en connaît certains, on n'en connaît pas tous, parce qu'il y a des fonctions ou des services qu'on découvre au fur et à mesure que les connaissances progressent. Et puis ensuite, ce qui est déjà un premier problème, et ensuite de les quantifier. Alors pour les quantifier, vous avez des méthodes qui existent, on le disait tout à l'heure, aucune n'est parfaite, mais mon sentiment, c'est quand même que c'est mieux que rien de les utiliser, parce qu'on arrive quand même à des ordres de grandeur, et que si vous expliquez à un promoteur qu'il ne faut pas protéger telle prairie parce que il y a une fleur rare dedans, c'est pas ça qui va l'empêcher. Alors que si cette prairie, du fait de cette fleur rare, prend une valeur qui est au-dessus des 5000 euros l'hectare en moyenne que ça vaut en France, ça peut contribuer à changer la décision.
Il y a eu une étude récente du WWF qui chiffre, je le dis dans mon introduction, à 500 milliards de dollars par an le coût de la dégradation de la biodiversité. Et alors, selon le WWF, c'est avant tout l'impact économique de la disparition des récifs coralliens, des mangroves et des herbiers qui poseraient problème et qui seraient responsables des deux tiers de l'addition totale. Catherine Aubertin, qu'est-ce que ça vous inspire ?
D'abord, que ce qu'on appelle la marchandisation de la nature n'est pas une idée qui provient du monde des affaires. Mais vous venez de le montrer, ce sont d'abord les ONG qui se sont saisies de cette possibilité de parler la langue de l'ennemi, en quelque sorte, pour pouvoir montrer au monde économique qu'il y a des situations où il faut peut-être préserver l'environnement est plus rentable d'un point de vue économique que de le détruire. Donc ça a été quelque chose d'important. Après, et on vient de le signaler, ce sont les écologues, c'est-à-dire ce sont les sciences du vivant qui ont imposé, construit cette notion de service écosystémique, justement pour sortir de cette collection d'animaux, comme de la façon dont on présentait la nature auparavant, pour intéresser le monde des affaires. Hein, c'est eux-mêmes qui ont pris cette métaphore, construit cette métaphore de service écosystémique pour intéresser le monde des affaires et la société à la sauvegarde de l'environnement. Et puis enfin, il faut voir aussi les sociétés. Enfin, l'ONU a eu une grosse importance parce que c'est l'ONU qui est à l'origine de la commande du rapport dont on vient de parler, là, du Millennium Ecosystem Assessment, et aussi du rapport du TEB, là, de The Economics of Ecosystem and Biodiversity.
Biodiversity. Voilà. Alors, c'est important de souligner, comme vous l'avez fait tout à l'heure, que l'on ne connaît qu'une faible partie de toute la biodiversité qui existe sur Terre. 1,8 million d'espèces sur 10 à 15 millions, le plus souvent estimées. Et non seulement il y a des espèces qui vont disparaître avant d'être étudiées, mais avant d'être connues, Guillaume Saint-Denis, parce que celles qui sont étudiées aussi, c'est une partie seulement de toutes les espèces.
Oui, mais encore, il y a des espèces qu'on connaît depuis très longtemps, sur lesquels on découvre de nouvelles choses, de nouvelles capacités d'adaptation ou des mécanismes qu'elles ont utilisés et qui nous laissent pantois. Et vous avez d'ailleurs une nouvelle discipline qui s'appelle le biomimétisme, qui consiste à s'inspirer de solutions trouvées par la nature pour des applications industrielles. Quelques exemples, le GECO, qui a cette manière de monter sur les murs verticaux, est utilisé pour des applications pour des cols, vous voyez, par exemple. Bon. Et donc, là aussi, on peut avoir un chiffre d'affaires extraordinaire si ça se développe.
Alors, c'est un essor, c'est en plein essor aujourd'hui?
C'est ça, je dirais pas que c'est en plein essor, mais ça se développe, en tout cas, incontestablement. Il y a à la fois un intérêt intellectuel, des laboratoires de recherche là-dessus, beaucoup de publications, etc. Alors, il y a quand même une distinction que je voudrais faire qui est importante, c'est que l'évaluation ou l'estimation économique de la biodiversité et de la valeur des biens et services écosystémiques produits ne signifie pas pour autant qu'on va les mettre sur le marché. Il y a deux choses différentes. Il y a un, qu'est-ce que ça vaut? Eh ben oui, si on construit une autoroute là et que là, il y a telle espèce qui est unique en France et que si on pouvait la dévier de 5 km, ça sauverait cette espèce. Si on donne une valeur à cette espèce, on va probablement dévier l'autoroute de 5 km. Si on lui en donne aucune, probablement pas. Ça ne veut pas dire qu'on va vendre cette espèce. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre sur le marché. Bon, par exemple, on peut exploiter le bois de manière compatible avec la préservation de l'écosystème forestier ou pas, mais ça peut se faire. Et puis il y a d'autres choses que probablement, quand il n'y a plus que 15 individus d'une espèce, on va évidemment pas la mettre sur le marché. Et évidemment, en général, ces espèces-là sont protégées.
Vous êtes d'accord avec cette idée, Catherine Aubertin, que ce n'est pas parce qu'on donne un prix qu'on crée automatiquement un marché?
Ah oui, c'est pas parce qu'on évalue, on donne une valeur qu'on crée un marché. La valeur, ça peut aider donc dans les négociations, là on vient d'en parler, ça peut aider aussi à informer les décideurs. Donner une valeur à une fonction, à un écosystème, c'est également permettre de prendre des décisions en politique publique.
Et alors, vous me le disiez pendant la pause musicale, que la future convention sur la biodiversité qui aurait lieu en Chine au mois d'octobre s'annonce éventuellement un petit peu tendue, Catherine Aubertin. C'est parce que la perte des services écosystémiques risque de peser davantage sur les pays en développement qui dépendent beaucoup des ressources naturelles?
Oh non, c'est bien plus. Là, on est vraiment dans du marchandage. Le blocage qui va se faire, ça va être un blocage, c'est peut-être un peu technique, c'est un blocage sur le champ d'application de ce que c'est que la biodiversité dans le champ d'une convention sur la diversité. Est-ce que oui ou non, ce qu'on appelle les DSI, c'est-à-dire les séquences numérisées génétiques, vont rentrer dans le champ d'application? J'essaie de m'expliquer. Actuellement, les progrès scientifiques des sciences du vivant font que on ne va plus vraiment chercher la molécule miracle au fin de la forêt, mais on va plutôt dans des banques de séquences génétiques sur ordinateur. C'est ce qu'on appelle la biodiversité in silico, si vous voulez.
Bon. Et que traduit le conflit qui pourrait survenir autour
Alors,
de ces questions?
Il se trouve que le protocole de Nagoya, donc qui est adossé à la Convention à la diversité biologique, avait prévu un retour aux populations, aux communautés autochtones et locales, mais aussi aux pays riches en biodiversité, un retour sur l'exploitation de la dite biodiversité. Et ça passait par les droits de propriété, des souverainetés qui étaient données aux États pour mettre en place, encadrer l'accès à leur biodiversité. Si leur biodiversité désormais se trouve dématérialisée dans des disques durs de par le monde, dans des banques qui sont souvent en libre accès, la donne change complètement. Et déjà dans les négociations du TIRPA, c'est le traité de la FAO sur l'alimentation, sur les ressources de l'alimentation et de l'agriculture, déjà dans les négociations du UIGI, c'est-à-dire c'est un article de la Convention qui défend les peuples autochtones, déjà les pays, disons, du Sud, pour aller vite, ont dit qu'ils n'accepteraient pas de nouvelles négociations si ces fameux DSI séquences ne rentraient pas dans l'application de la Convention.
Beaucoup de conflits à venir pour cette convention qui aura lieu en Chine, Guillaume Zantny?
Oui, alors pourquoi pour bien expliquer, c'est ce qu'on appelle une COP. On a parlé de la COP de Paris, et là c'est la COP, c'est-à-dire la conférence des parties signataires de la convention qui a lieu régulièrement, mais il y en a qui sont plus ou moins importantes selon ce qui est à l'ordre du jour. Et là, ce qui est à l'ordre du jour, c'est le bilan de l'accord de Nagoya, qui avait été un succès à un moment où... Qui avait eu lieu en 2010. Et qui avait eu lieu juste après l'échec de Copenhague, où tout le monde des diplomates de l'environnement l'environnement était un peu groggy par l'échec de Copenhague. Alors, on avait beaucoup plus parlé de l'échec de Copenhague que du succès de Nagoya. Voilà. Alors, ce Nagoya, il y a plusieurs choses qui ont été adoptées, mais il y a notamment une chose qui est importante dont on a parlé tout à l'heure, qui sont les objectifs d'Aichi. Alors, évidemment, qui sont des objectifs qui n'étaient pas véritablement contraignants, mais dont on se rend compte que ils seront pas atteints à la fin de l'année, y compris par la France, d'ailleurs. Alors, j'en prendrai simplement un qui est très simple pour comprendre, c'est l'objectif A3 qui dit que d'ici 2020, donc on parle en 2010, toutes les subventions publiques dommageables à la biodiversité doivent avoir été annulées ou réformées. Bon, ça c'est quelque chose, on parlait tout à l'heure des moyens financiers. On a aujourd'hui dans le monde à peu près 400 milliards de dollars par an de subventions publiques aux énergies fossiles uniquement. Et pour la biodiversité, c'est bien plus, puisque celles-là sont déjà défavorables à la biodiversité, mais il y en a beaucoup plus.
Donc ça, le bilan risque d'être catastrophique.
Ce que je veux dire, c'est par là, ça, que c'est pas le fonctionnement de l'économie qui fait ça. Ce sont des subventions publiques des États. Donc, les États ayant par ailleurs des problèmes de finances publiques pourraient commencer à diminuer ces subventions publiques qui creusent leur déficit budgétaire et soit rééquilibrer leur budget, soit redistribuer une partie de ces sommes à des actions davantage protectrices. Et même cet objectif-là, qui est assez simple, il est compliqué, mais il est peut-être plus simple que d'autres, eh ben, on ne l'a pas du tout atteint.
Et est-ce qu'il faut prendre en compte, Catherine Aubertin, ce qu'on se disait à l'instant, qui est que la perte des services écosystémiques va peser davantage sur les pays en développement, ça c'est une réalité ?
Davantage, je crois que ça va peser sur absolument tout le monde, hein. C'est vraiment à l'échelle de la planète, mais il est vrai que actuellement, ce sont plutôt les changements globaux qui vont affecter. On voit bien que les pays du Sud, dits du Sud, vont être beaucoup plus atteints par les effets du changement climatique que les pays européens.
Ce que je veux dire par là, c'est que le capital naturel, ce qu'on appelle le capital naturel, représente une plus ou moins grande source de richesse. Guillaume Saint-Denis, apparemment, ce serait 25% de la richesse dans les pays à bas revenus, contre 2% seulement dans les pays industrialisés.
Oui, alors la façon dont ces chiffres sont calculés, c'est plutôt des ordres de grandeur. Mais il est vrai que dans le revenu, que ce soit national ou par habitant des pays en voie de développement, il y a beaucoup plus d'autoconsommation, donc beaucoup plus de produits qui viennent directement de la nature, de cueillette, de chasse, de pêche dans les sociétés traditionnelles, par exemple, que dans un pays comme la France. Et donc, plus le capital naturel est endommagé, plus les modes de vie et le niveau de vie de ces habitants va souffrir, oui.
Catherine Aubertin.
C'est intéressant et paradoxal parce que les pays dits du Sud ont toujours protesté contre les demandes d'augmenter les protection de leur environnement en disant que les mesures environnementales visaient à freiner leur développement. Donc c'était une façon donc ces conventions sur la diversité biologique ont toujours été des lieux de marchandage où il fallait assurer des retours aux pays du Sud pour qu'ils puissent conserver leur environnement eux-mêmes, mettant leur développement évidemment en priorité.
Quand on pense à un prix de la nature, on pense souvent au marché mondial du carbone, cette idée d'inciter les pays à ralentir la déforestation. Catherine Aubertin, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment on a donné un prix comme cela au carbone stocké dans les forêts?
Ah oui, alors ça c'est quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire que pour que ça soit la convention climat où on a créé donc une marchandise, la tonne, c'est quand même la tonne de carbone non émise, c'est quand même une attraction assez intéressante. Et pour la convention sur la diversité biologique, on a créé les ressources génétiques. C'est-à-dire, c'est le matériel génétique qui a une valeur effective ou potentielle. C'est-à-dire que dans les deux conventions, elles ont été signées en 92. Hein, c'était une époque de, on va dire, néolibéralisme un peu effréné où on pensait que le marché était vraiment régulateur. Donc on pensait pouvoir résoudre les problèmes d'environnement par des marchés. Donc un marché du carbone, donc on allait marchander cette tonne de carbone non émise, c'est-à-dire que les pays vertueux n'émettant pas beaucoup de gaz à effet de serre pourraient vendre leur quota à ceux qui auraient trop émis de gaz. Voilà. Donc il y avait cette idée de prix du marché du carbone et de la même façon il y avait cette idée de contrats bilatéraux marchands de ressources génétiques entre un fournisseur et un utilisateur.
Et quel bilan on peut faire de ces marchés ?
Pour le marché des ressources génétiques, il n'a pas vu le jour. Ça ne se passe pas vraiment comme ça. À ma connaissance, il n'y a eu aucun contrat important d'accès à des ressources génétiques qui ont donné lieu à des innovations pharmaceutiques, par exemple. Enfin, en tout cas, je n'en connais pas. Et côté du marché du carbone, je pense que
Guillaume Saint-Denis
plus que moi. Et pour l'instant, ça fait un peu pouf, non?
Le marché du carbone, c'est compliqué parce qu'il y a des pays où ça existe, y compris aux États-Unis. Il y a plusieurs marchés du carbone qui fonctionnent aux États-Unis. Le problème, c'est à quel prix on fixe la tonne de carbone. Alors, il n'y a pas de prix. Les prix sont très différents selon les endroits. Et en fait, on fixe un prix qui est celui que la puissance publique estime juste ou nécessaire pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé à 2050, 2030, 2040, etc. Bon, et puis ensuite, il faut prendre compte des réalités sociales. Et c'est ce qui s'est passé pour ce qu'on a appelé improprement la taxe carbone, c'est-à-dire l'augmentation de la TICPE pour l'essence et le gazole, où on a bien vu qu'il y avait un petit problème d'acceptabilité sociale parce que ça n'était pas compensé par une baisse de taxes ailleurs. C'est-à-dire que la fiscalité écologique, ça ne peut pas être simplement rajouter des taxes.
Mais est-ce que le marché européen du carbone ne marche pas un petit peu mieux, précisément parce que le prix du carbone est remonté, il est tout de même plus élevé?
Oui, il est remonté un peu, mais il était tellement bas qu'il est très en dessous de ce qu'il devrait être pour avoir un effet réel.
Oui. Alors, on va parler de cette taxe parce que c'est important de rappeler que l'ancêtre de la taxe carbone, c'est Arthur Cecil Pigou, l'économiste britannique. C'est à lui que l'on doit véritablement l'invention de ce principe, Catherine Aubertin.
Bon, Arthur Pigou, on le cite toujours en cours d'économie de l'environnement comme justement l'inventeur de la notion de pollueur-payeur. C'est-à-dire que c'est lui qui a estimé que, en l'absence de prix, parce que les biens d'environnement, ils n'ont pas de prix, ils n'ont pas de propriétaire, mais pour lui, il s'est surtout focalisé sur les prix. Il a donc institué un système de taxes, une des incitations financières pour que des industriels pollueurs, par exemple, qui pollueraient la société sans contrepartie monétaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle des externalités, donc il y aurait des activités externes au marché, il faut répondre à ces externalités par un signal prix, des incitations monétaires. Voilà. Par la suite, l'autre moyen, ça n'a pas été des taxes, ça a été de créer des marchés. Et là, on a une autre logique. On se focalise sur le déficit d'appropriation. C'est-à-dire, pourquoi il y a des dommages à l'environnement? C'est parce que les biens de l'environnement ne sont pas appropriés. Et donc, là, l'idée, c'est de distribuer des droits de propriété. Vous voyez, donc, les économistes, ils ont ce souci que les biens de l'environnement général sont en libre accès et sont gratuits. Et ça, il faut donc mettre des prix et des propriétaires. C'est ce qui s'est passé dans les deux conventions internationales.
Alors c'est intéressant de voir qu'il y a cette possibilité qui est offerte aux entreprises de compenser l'impact négatif qu'elles ont sur la nature. À ce propos, je vous propose d'écouter Bernard Chevassiot-Louis, qui est le président de l'association Humanité et Biodiversité.
Il faut voir que ce principe de compensation, il a plus de 40 ans, c'était la loi de 76, et c'est la troisième étape d'un triptyque: éviter, réduire et compenser. Et on insiste beaucoup, nous, dans notre association, pour dire qu'il faut commencer par faire sérieusement l'éviter, c'est-à-dire de se dire, est-ce qu'il faut réaliser cet aménagement? Je prends un exemple d'un travail envisagé pour la SNCF, qui était le barreau de ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges. La question de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller à grande vitesse entre Poitiers et Limoges, en termes d'intérêt public, est un débat qu'il ne faut pas éliminer sous prétexte qu'on pourra compenser. Puis ensuite, effectivement, la question, est-ce qu'on peut éviter au sens ne pas avoir trop d'impact? Je prends un exemple très concret. Vous savez aujourd'hui qu'on a des techniques permettant de passer sous une rivière, par exemple une grosse canalisation de gaz, et donc ne pas couper la rivière et détruire éventuellement les habitats aquatiques. Et ça, c'est un premier exemple d'évitement. La question, c'est que c'est souvent des techniques qui sont plus coûteuses que les méthodes traditionnelles.
Il faut donc faire en sorte que ces techniques d'évitement soient moins coûteuses que le mécanisme de compensation, Catherine Aubertin. C'est là tout l'enjeu.
La compensation, ce qui est intéressant dans la compensation, c'est que on voit bien que ça fonctionne, c'est sous l'égide de l'État. La loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité a, dans ses articles, précisé ce que ça pouvait être une compensation. Donc quand il y a dommage à l'environnement, et là l'exemple était très bon, là, de faire passer des rails, disons, dans une zone protégée, comment peut-on faire? Et donc, en dernier recours, il y a cette possibilité de compenser. Mais dans ces cas-là, c'est compenser à partir d'un gain de biodiversité. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de mettre une cloche en disant, voilà, on va détruire là pour conserver ailleurs. Non, il faut vraiment une création de biodiversité. Et là, on a des créations, on disait, d'unités de compensation. C'est-à-dire, quand vous restaurez, c'est la Caisse de dépôt et consignation qui a lancé des programmes de ce genre, quand on restaure une zone dégradée, on a donc des unités de compensation qui peuvent servir à contrebalancer une attaque à l'environnement.
Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'efficacité de ce système de compensation mis en place en France, Catherine Aubertin ?
Écoutez, honnêtement, moi je pense que c'est un moindre mal. De toute façon, il faut utiliser les outils que nous avons. La loi française cadre bien la question dans la mesure où justement cette compensation se fait à partir de gains de biodiversité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de biodiversité. Mais on voit bien quand même que c'est un marchandage.
Guillaume Saint-Denis, sur les risques de la compensation.
Encore une fois, alors c'est une technique en fait qui a été qui vient de ce qu'on appelle les études d'impact, etc., qui ont été inventées en fait au départ aux États-Unis, qui ont été rapportées en France dans les années 70. Et en effet, il y a eu cette loi de 76 qui disait qu'il devait y avoir un triptyque, qui était que quand il y avait un impact constaté d'une infrastructure, il fallait d'abord éviter les impacts, si on peut, ensuite les réduire, si on ne pouvait pas les éviter, et ensuite les compenser. Réduire. On a beaucoup progressé incontestablement dans la réduction des impacts. Éviter, on a un peu sauté l'obstacle en disant on fait le truc et on voit après. Et compenser, on l'avait pas tellement mis en œuvre. Donc au moment du Grenelle de l'environnement, tout ça a été remis en chantier et on a mis en place ce mécanisme de compensation. C'est peut-être un peu tôt pour faire le bilan. Moi, mon sentiment, c'est que à ce stade, les maîtres d'ouvrage ont tendance à aller trop directement à la compensation, sans s'apesantir sur l'aspect réduction. Oui, je crois que c'est à peu près pas trop mal fait. Mais l'aspect évitement est presque toujours nié, alors que quelquefois, le besoin même de l'infrastructure peut se questionner, d'autant plus qu'on en est, si vous voulez, pour prendre l'exemple du TGV qui était pris là, à 100 à 200 millions d'euros la minute gagnée pour un TGV. Bon, est-ce qu'une minute de temps gagné vaut vraiment 100 à 200 millions d'euros? C'est une vraie question. J'y réponds pas, mais elle mérite de se poser.
C'est particulièrement difficile à compenser, effectivement, financièrement. Ce que l'on comprend et ce que l'on a compris tout au long de cette émission, c'est que ce concept de paiement pour des services environnementaux est de plus en plus répandu. Mais ce qui est peut-être en discussion aujourd'hui, Catherine Aubertin, c'est la gouvernance de ces dispositifs et aussi leur retombée sur les populations locales. Qui doit bénéficier de ces paiements ?
Alors, le paiement pour services environnementaux, c'est pour que la personne qui recevra ces paiements change de comportement. Donc ça peut très bien être ne rien faire. Là, c'est ce qui a été proposé, par exemple, pour lutter contre la déforestation. On suggérait de payer, d'ailleurs, au coût d'opportunité, c'est-à-dire au manque à gagner de la personne qui n'ouvrira pas un champ pour planter du riz, par exemple. Donc, on va la payer, on va calculer un coût d'opportunité en termes de sac de riz pour qu'elle ne détruise pas l'environnement, un hectare de forêt tropicale, par exemple. Et puis, c'est aussi pour que les gens changent de pratique. Alors ça, l'exemple qu'on cite toujours, c'est l'exemple de Vittel, donc des eaux, qui a acheté des terrains et demandé aux agriculteurs de changer leurs pratiques culturelles pour ne pas polluer les nappes d'eau. Bon. Mais on voit bien que dans ces cas-là, d'abord ce coût d'opportunité, comment le calculer ? Est-ce que ça change quelque chose ? Si l'agriculteur en question n'a pas d'autres possibilités, c'est évident qu'il va continuer à couper quelque chose et c'est pas la peine de le maintenir dans une situation misérable. Et de l'autre côté, qui peut payer, combien de temps et comment ça va se passer ? Dans tous les cas, il y a ce qu'on appelle des coûts de transaction, c'est-à-dire des mises en place de systèmes extrêmement compliqués.
Et aussi la question de qui doit superviser ces systèmes, Guillaume Saint-Denis, la question de la gouvernance, elle est centrale.
Oui, alors les paiements pour services environnementaux quand même, c'est un peu l'inverse de la compensation. C'est-à-dire que c'est plutôt pour justement payer des externalités positives produites par les écosystèmes qui ne sont pas rémunérées sur le marché. Il y a des choses qui en fait profitent à l'intérêt général, aux communautés avoisinantes, quelqu'un qui a une zone humide et l'eau fait qu'on peut irriguer, on peut avoir des tas de choses, ça filtre les pollutions, etc. Ben, il n'a pas intérêt à garder cette zone humide puisqu'il n'en a pas des revenus. Donc il a intérêt à la combler, à la bâtir, etc. Donc c'est lui payer en fait les externalités positives qui ne sont pas mises sur le marché ou qui ne sont pas rémunérées pour qu'il conserve cette zone humide et qu'éventuellement il la gère de façon à ce qu'elle ne s'enfriche pas, etc. Alors ça peut se faire de façon très locale, ou ça peut être un système juridique national. Il y a pour l'instant quelques exemples de paiements pour services environnementaux qui sont assez...
Auprès des agriculteurs en France ?
Oui, mais il y en a aussi dans beaucoup de pays du monde qui sont pour l'instant quand même très insuffisants et qui ne viennent pas résoudre un autre problème, c'est que on se pose déjà en France la question de savoir comment on va taxer ces paiements pour services environnementaux, alors qu'ils sont à peine existants, et que les espaces naturels sur lesquels on souhaite les appliquer sont eux-mêmes l'objet déjà d'une taxation très forte. Donc si on veut qu'il y ait moins de destruction de la biodiversité et d'espaces naturels, la première chose à faire, c'est de réduire la taxation de ces espaces.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Je voulais vous faire réagir à une dernière information. L'écart entre les indices boursiers et le monde réel qui semble se creuser, comme on l'a vu avec l'exemple de l'Australie, qui a vu sa bourse battre des records, tandis que des indices ravageaient le pays. On se demande si le salut de la biodiversité se trouve vraiment dans l'économie, Guillaume Saint-Denis.
Oui, alors la question que vous posez, elle n'est pas propre à la biodiversité. Il y a en effet une financiarisation du monde et de l'économie depuis quelques décennies, qui est probablement pas saine.
Et qui crée peut-être un décalage entre l'économie réelle et l'économie financière et qui risque peut-être d'avoir un impact sur cette biodiversité.
En même temps, pour être paradoxal, si la biodiversité vaut probablement plus cher que ce à quoi elle a été estimée jusqu'à présent, c'est peut-être le monde financier qui est en retard sur elle. Voyez.
Catherine Bertin.
C'est la difficulté du monde de la finance à se saisir de la biodiversité. Mais on voit aussi qu'il y a une ambiguïté. Est-ce que vraiment le monde des affaires peut tirer des bénéfices de la biodiversité? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir vraiment une accumulation de capital à partir d'une gestion de la biodiversité? Ça, c'est des questions auxquelles on a du mal à répondre.
Une question qu'on va pouvoir méditer, en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho, Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
C'est un des plus grands groupes mondiaux de banques assurances qui est créé aujourd'hui avec la réunion de la Banque Postale et du groupe CNP Assurance. Officiellement, c'est pour mieux irriguer les territoires?
Oui, c'est l'aboutissement de l'opération Mandarine lancée en août 2018. Un groupe aujourd'hui de 708 milliards de chiffre d'affaires. Alors, l'État lâche le contrôle historique qu'il avait sur la Poste en cédant ses parts. Il n'y a pas de fusion, mais un système de participation emboîté. La Caisse des dépôts et consignations actionnaires devient actionnaire majoritaire de La Poste et la Banque Postale, elle, devient actionnaire majoritaire de CNP Assurance. C'est une bonne opération pour La Poste dont l'activité du courrier est en effondrement et qui l'handicap assez. Elle devrait y gagner 3,5 milliards d'euros supplémentaires de revenus. Bonne opération aussi pour CNP qui est un relativement petit acteur. L'État, lui, donc perd son contrôle direct, mais empoche 5 milliards d'euros et assure que la banque servira à mieux irriguer la politique des territoires. Ce sera le premier pôle financier public au monde, dit Bruno Le Maire. Alors le projet remonte à des années, mais depuis un an, on peut dire que la Mandarine était pressée, explique Bertrand Jacquillat, c'est le vice-président du Cercle des économistes.
C'était difficile, il fallait faire aussi accepter par l'État qu'il ne soit plus le détenteur direct de la Poste, puisque c'est la Caisse des dépôts et consignations qui, en échange de l'apport qu'elle fait à la Banque Postale de CNP Assurance, se trouve actionnaire majoritaire de la Poste. L'État fait une belle affaire. CNP Assurance n'a pas d'agence. Donc, manifestement, l'intérêt de CNP Assurance dans cette affaire, c'est de profiter du maillage territorial de la Poste et de la Banque Postale. Et puis, la Banque Postale y gagne aussi, parce qu'elle était une toute jeune banque qui n'avait pas encore vraiment de produits d'assurance. Et donc, comme le mariage banque-assurance, la banque-assurance, n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est une bonne chose, là, tout ceci coule de sens, en quelque sorte. Et donc, la nouvelle entité banque-assurance va profiter d'un mariage territorial plutôt que de concurrencer Goldman Sachs. Les perdants, en fait, ce sont peut-être les concurrents, c'est-à-dire la Générale, BNP Paribas et le Crédit Agricole.
Les principaux concurrents de la nouvelle entité se font d'ailleurs discrets, même s'ils ne voient pas forcément d'un bon œil l'arrivée de ce géant bancaire favorisé.
Favorisé, ce n'est pas faux, puisque l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, a autorisé en juin dernier la prise de contrôle de CNP par la Poste sans passer par une OPA, comme ce doit être le cas. C'est vrai aussi qu'au passage, la nouvelle entité a absorbé hier Dexia, le 7e assurant français. Alors les autres acteurs ne commentent pas pas, mais les échos rapportent les propos d'une dirigeante du secteur qui parle de distorsion de la concurrence. Et puis reste aussi cette question de l'éventuelle reprise de l'activité de détail de HSBC. Et bien là, la Banque Postale vient de déclarer aujourd'hui, comme pour rassurer, qu'elle n'est pas candidate.
On passe au bref et c'est fait. L'OPEP et ses partenaires viennent de se mettre d'accord sur une réduction de la production pétrolière mondiale pour arrêter la chute des cours. Alors c'est fait ou c'est pas fait?
Eh bien, réduction en tout cas plus importante que prévu, hein. 1,5 million de barils par jour à partir du deuxième trimestre de cette année. Elle viendrait s'ajouter à celle décidée en 2016 de 1,2 million de barils par jour pour remettre à flot les cours du pétrole brut. L'Arabie Saoudite et les pays OPEP font un geste puisqu'ils acceptent de réduire leur part de marché. C'est 35% face au non-OPEP, mais rien n'est fait puisque la Russie doit encore accepter et que Vladimir Poutine a répété hier encore qu'il souhaitait simplement prolonger l'accord, se satisfaisant d'un prix du baril à 42$ qu'il juge suffisant pour tenir le budget russe.
Une situation sans précédent pour les transporteurs aériens, alerte aujourd'hui leur association internationale. 113 milliards de dollars de coûts et une nouvelle épidémie de faillite à craindre.
C'est l'estimation de l'association internationale du transport aérien qui est bien plus élevée. Il faut le remarquer que les 30 milliards de manque à gagner qu'elle avait estimé il n'y a pas longtemps fin février. Quant aux faillites, les centaines d'annulations de vols et d'avions collés au sol vont évidemment coûter très cher. Lufthansa en a immobilisé 150, Air France prolonge des maintenances et puis les petites compagnies les plus fragiles meurent effectivement. Flybe, la principale compagnie intérieure britannique, vient de cesser son activité aujourd'hui.
Et on finit avec le coronavirus, première pénurie en vue en Australie, des pénuries qui vont avoir des graves conséquences.
Oui, c'était hier, vous étonniez Tiffaine, puisqu'il s'agit de papier toilettes que la principale chaîne
c'est
de supermarchés du pays Woolworths a décidé de rationner à 4 paquets par client pour consolider le niveau des stocks, disent-ils, en attendant une augmentation de la production. Mesure pas nécessaire, a dit le Premier ministre, mais l'heure est grave. En février, un camion empli de palettes de papier hygiénique avait été braqué par 3 hommes armés à Hong Kong.
Merci beaucoup Xavier Martinet, on vous retrouve lundi pour un nouveau journal de l'écho.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, near the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and down, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light.
La reprise de Sound of Silence par Edgar. Merci beaucoup Guillaume Saint-Denis et Catherine Aubertin de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On mettra les références de vos ouvrages sur la page d'Entendez-vous l'écho. Merci également à toute l'équipe, Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Aliette Auvin et Alain de Rocourt qui ont participé à la préparation de cette émission, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique aujourd'hui Alex Dank.
Disturb the sound of silence. Fools that are, you do not know.
Demain, nous diffusons l'émission enregistrée samedi dernier en public dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. La lutte des classes est-elle toujours d'actualité? C'est la question que nous avons posée à la sociologue Dominique Méda, aux économistes Nicolas Bavret et Philippe Askenazy et à l'historien Olivier Dard. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr ou en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.
Of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the word that it was.